Chers auditeurs et auditrices, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle actualité du pape. Commençons avec cette longue interview que notre Saint-Père a offert à différentes personnes qui, à travers l'Osservatore Romano, lui posaient des questions. Cette interview concerne Saint Joseph. Voici la première question. Saint-Père, vous avez proclamé une année spéciale dédiée à Saint-Joseph, écrit une lettre apostolique à son sujet, Patris Cordae, et vous réalisez un cycle de catéchèses toutes consacrées à sa figure. Que représente Saint-Joseph pour vous? Je n'ai jamais caché la syntonie que je ressens à l'égard de la figure de Saint-Joseph. Je crois que cela vient de mon enfance, de ma formation. Depuis toujours, j'ai cultivé une dévotion spéciale pour Saint-Joseph, parce que je crois que sa figure représente de manière belle et spéciale ce que devrait être la foi chrétienne pour chacun d'entre nous. Joseph est en effet un homme ordinaire, et sa sainteté consiste précisément à être devenu saint à travers les circonstances bonnes et mauvaises qu'il a dû vivre et affronter. Nous ne pouvons en outre cacher le fait que Saint Joseph dans l'Évangile, surtout dans les récits de Matthieu et de Luc, est présenté comme un protagoniste important des débuts de l'histoire du salut. En effet, les événements qui ont vu naître Jésus ont été des événements difficiles, pleins d'obstacles, de problèmes, de persécutions, d'obscurité. Et Dieu, pour rencontrer son Fils qui naissait dans le monde, a placé Marie et Joseph à ses côtés. Si Marie est celle qui a donné au monde le Verbe fait chair, Joseph est celui qui l'a défendu, qui l'a protégé, qui l'a nourri et l'a fait grandir. Nous pourrions dire que nous trouvons en lui l'homme des temps difficiles, l'homme concret, l'homme qui sait prendre des responsabilités. En ce sens, s'unissent en Saint Joseph deux caractéristiques. D'une part, une spiritualité marquée, qui se traduit dans l'Évangile par les récits de rêves. Ces récits témoignent de la capacité de Joseph à écouter Dieu qui parle à son cœur. Seule une personne qui prie, qui a une vie spirituelle intense, peut aussi avoir la capacité de distinguer la voix de Dieu au milieu des nombreuses voix qui nous habitent. À côté de cette caractéristique, il y en a une autre. Joseph est l'homme concret, c'est-à-dire l'homme qui affronte les problèmes avec un sens pratique extrême, et face aux difficultés et aux obstacles, il n'adopte jamais une position de victime. Au contraire, il se place toujours dans la perspective de réagir, de répondre, de faire confiance à Dieu et de trouver une solution créative. Question. Cette attention renouvelée à Saint Joseph en ce moment de grande épreuve revêt-elle un sens particulier? Réponse du Saint-Père. La période que nous vivons est une période difficile, marquée par la pandémie de coronavirus. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de familles sont en difficulté, beaucoup de personnes sont assaillies par l'angoisse de la mort, d'un avenir incertain. J'ai pensé que, précisément dans une période aussi difficile, nous avions besoin de quelqu'un qui puisse nous encourager, nous aider, nous inspirer, pour comprendre quelle est la bonne manière d'affronter ces moments d'obscurité. Joseph est un témoin lumineux en des temps sombres. C'est pourquoi il était juste en ce moment de lui donner de la visibilité, pour nous aider à retrouver le chemin. Question. Votre ministère pétrinien de pape a commencé le 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph. Réponse du pape. J'ai toujours considéré comme une délicatesse du ciel le fait de pouvoir commencer mon ministère pétrinien le 19 mars. Je crois que d'une certaine manière, Saint-Joseph a voulu me dire qu'il continuerait à m'aider, à être proche de moi, mais que je pouvais continuer à le considérer comme un ami vers lequel me tourner, à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais demander d'intercéder et de prier pour moi. Mais clairement, cette relation qui est donnée par la communion des saints ne m'est pas réservée. Je pense qu'elle peut être utile à beaucoup. C'est pourquoi j'espère que l'année consacrée à Saint-Joseph a conduit de nombreux chrétiens à redécouvrir dans leur cœur la valeur profonde de la communion des saints, qui n'est pas une communion abstraite, mais une communion concrète, qui s'exprime dans une relation concrète et a des conséquences concrètes. Question. Dans la chronique sur Patrice Cordet, l'encyclique donc qu'a consacré le pape François à Saint-Joseph. Dans la chronique sur Patrice Cordet, publiée dans l'Observatore Romano au cours de l'année spéciale consacrée à Saint-Joseph, nous avons entrelacé la vie du saint avec celle des pères, mais aussi des fils d'aujourd'hui. Que peuvent recevoir les garçons d'aujourd'hui, autrement dit les pères de demain, du dialogue avec Saint-Joseph? Réponse du Saint-Père. Nous ne sommes pas nés pères, mais nous sommes certainement tous nés fils. C'est la première chose que nous devons considérer. C'est-à-dire que chacun de nous, au-delà de ce que la vie lui a réservé, est avant tout un fils. Il a été confié à quelqu'un. Il vient d'une relation importante qui l'a fait grandir et qui l'a conditionné, pour le meilleur et pour le pire. Avoir cette relation et reconnaître son importance dans sa propre vie signifie comprendre qu'un jour, lorsque nous aurons la responsabilité de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire lorsque nous devrons exercer la paternité, nous porterons avec nous avant tout l'expérience que nous avons vécue personnellement. Il est donc important de pouvoir réfléchir à cette expérience personnelle afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et de chérir les belles choses que nous avons vécues. Je suis convaincu que la relation paternelle de Joseph avec Jésus a tellement influencé sa vie que la future prédication de Jésus est pleine d'images et de références empruntées à l'imaginaire paternel. Jésus, par exemple, affirme que Dieu est Père, et cette affirmation ne peut nous laisser indifférents, surtout si l'on considère ce qu'a été son expérience personnelle de la paternité. Cela signifie que Joseph a si bien réussi en tant que Père que Jésus a trouvé dans l'amour et la paternité de cet homme le plus beau point de référence à donner à Dieu. Nous pourrions dire que les enfants d'aujourd'hui, qui deviendront les pères de demain, devraient se demander quel père ils ont eu et quel père ils veulent devenir. Ils ne doivent pas laisser leur rôle paternel être le fruit du hasard ou simplement la conséquence d'une expérience faite par le passé. Mais ils doivent décider consciemment comment aimer quelqu'un, comment assumer la responsabilité de quelqu'un. Nouvelle question. Dans le dernier chapitre de Patrice Cordet, Joseph est présenté comme un père dans l'ombre. Un père qui sait être présent, mais qu'il laisse son fils libre de grandir. Cela est-il possible dans une société qui semble ne récompenser que ceux qui occupent l'espace et la visibilité? Réponse du Saint-Père. L'une des plus belles caractéristiques de l'amour, et pas seulement de la paternité, est précisément la liberté. L'amour génère toujours la liberté. L'amour ne doit jamais devenir une prison, une possession. Joseph nous montre sa capacité de prendre soin de Jésus sans jamais prendre possession de lui, sans jamais vouloir le manipuler, sans jamais vouloir le distraire de sa mission. Je crois que ceci est très important pour vérifier notre capacité d'aimer et aussi de notre capacité de savoir prendre du recul. Un bon père est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment pour que son fils puisse émerger avec sa beauté, avec son unicité, avec ses choix, avec sa vocation. En ce sens, dans toute bonne relation, il est nécessaire de renoncer au désir d'imposer une image d'en haut, une attente, donc une visibilité, une occupation complète et constante de la scène par un premier rôle excessif. La caractéristique de Joseph de savoir se mettre de côté, son humilité, qui est aussi la capacité de s'effacer, est peut-être l'aspect le plus décisif de l'amour qu'il manifeste pour Jésus. En ce sens, Joseph est un personnage important, j'oserais dire essentiel dans la biographie de Jésus. Précisément parce qu'à un certain moment, il sait se retirer de la scène pour que Jésus puisse briller dans toute sa vocation, dans toute sa mission. À l'image de Joseph, nous devons nous demander si nous sommes capables de savoir prendre du recul, de permettre aux autres, et surtout à ceux qui nous sont confiés, de trouver en nous un point de repère, mais jamais un obstacle. Nouvelle question. Vous avez souvent dénoncé le fait que la paternité est en crise aujourd'hui. Que peut-on faire? Que peut faire l'Église pour redonner de la force à la relation père-fils qui est fondamentale pour la société? Lorsque nous pensons à l'Église, nous la voyons toujours comme une mère, et ce n'est certainement pas faux. Ces dernières années, j'ai essayé de beaucoup insister sur cette perspective, car la manière d'exercer la maternité de l'Église est la miséricorde, c'est-à-dire cet amour qui engendre et régénère la vie. Le pardon, la réconciliation, ne sont-ils pas un moyen par lequel nous nous redressons? N'est-ce pas un moyen par lequel nous recevons à nouveau la vie, parce que nous recevons une autre chance? Il ne peut y avoir d'Église de Jésus-Christ que par la miséricorde. Mais je pense que nous devrions avoir le courage de dire que l'Église ne devrait pas être seulement maternelle, mais aussi paternelle. Autrement dit, qu'elle est appelée à exercer un ministère paternel, non paternaliste. Et lorsque je dis que l'Église doit retrouver cet aspect paternel, je me réfère précisément à la capacité toute paternelle de mettre les enfants en position de prendre leur propre responsabilité, d'exercer leur propre liberté, de faire des choix. Si d'une part, la miséricorde nous purifie, nous guérit, nous console, nous encourage, d'autre part, l'amour de Dieu ne se limite pas simplement à pardonner et à guérir. Mais l'amour de Dieu nous pousse à prendre des décisions, à prendre le large. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C'est une façon inattendue de rendre justice. C'est celle de Dieu, a déclaré le pape ce mercredi 19 janvier dans sa catéchèse intitulée Saint Joseph, Père dans la tendresse. En voici la lecture de cette catéchèse. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais approfondir la figure de Saint Joseph comme père de tendresse. Dans ma lettre apostolique Patris Cordae, j'ai eu l'occasion de réfléchir à cet aspect de la tendresse, un aspect de la personnalité de Saint Joseph. En effet, même si les évangiles ne nous donnent aucun détail sur la manière dont il a exercé sa paternité, nous pouvons être sûrs que le fait qu'il soit un homme juste s'est également traduit dans l'éducation donnée à Jésus. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que dit l'Évangile. Comme le Seigneur le fit avec Israël, il lui a appris à marcher à Jésus, en le tenant par la main. Il était pour lui comme le père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour le nourrir. Elle est belle, cette définition de la Bible, qui fait voir la relation de Dieu avec le peuple d'Israël. Et nous pensons que c'est la même relation, celle de Saint Joseph, avec Jésus. Les évangiles témoignent que Jésus a toujours utilisé le mot « Père » pour parler de Dieu et de son amour. De nombreuses paraboles ont comme protagoniste la figure du Père. L'une des plus célèbres est certainement celle du Père miséricordieux, racontée par l'évangéliste Luc. Cette parabole met l'accent par-delà l'expérience du péché et du pardon, sur la manière dont le pardon atteint la personne qui a commis une faute. Le texte dit « Comme il était encore loin de la maison, le fils pécheur qui s'était éloigné, quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils s'attendait à une punition, une justice qui, tout au plus, aurait pu lui donner la place d'un des serviteurs. Mais il se retrouve enveloppé dans l'étreinte de son père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C'est une façon inattendue de rendre justice. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier que Dieu n'est pas effrayé par nos péchés. Mettons-nous cela bien en tête. Dieu n'est pas effrayé par nos péchés. Il est plus grand que nos péchés. Il est Père. Il est amour. Il est tendre. Il n'est pas effrayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes. Mais il est effrayé par la fermeture de notre cœur. Cela, oui, le fait souffrir. Il est effrayé par notre manque de foi en son amour. Il y a une grande tendresse dans l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est beau de penser que la première personne à transmettre cette réalité à Jésus a été Joseph lui-même. Car les choses de Dieu nous parviennent toujours par la médiation d'expériences humaines. Il y a quelque temps, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, un groupe de jeunes gens qui font du théâtre, un groupe de jeunes gens pop, en avance sur leur temps, a été frappé par cette parabole du Père miséricordieux et a décidé de faire une œuvre de théâtre pop avec ce sujet, avec cette histoire. Et tout l'argument est, à la fin, qu'un ami écoute le fils qui s'est éloigné de son père, qui voulait rentrer à la maison, mais qui avait peur que son père le mette dehors et le punisse et toutes ces choses. Et l'ami lui dit, dans cet opéra pop, « Envoie un messager et dis que tu veux rentrer chez toi. Et si le père le reçoit, qu'il mette un mouchoir à la fenêtre. La fenêtre que tu verras dès que tu prendras le dernier chemin. » Cela a été donc fait, et l'opéra, avec des chants et des danses, continue jusqu'au moment où le fils emprunte le chemin final et l'on voit la maison. Quand il lève les yeux, il voit la maison pleine de mouchoirs blancs. Pleine, pas une, toutes les fenêtres, trois ou quatre par fenêtre. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Il n'a pas peur de notre passé, de nos mauvaises choses, non. Il a seulement peur de la fermeture. Donc nous avons tous des comptes à régler. Mais régler ces comptes avec Dieu est une très belle chose. Car nous commençons à parler. Et lui nous embrasse. Nous pouvons donc nous demander si nous avons nous-mêmes fait l'expérience de cette tendresse. Et si nous en sommes devenus à notre tour les témoins. Car la tendresse n'est pas d'abord une affaire d'émotion ou de sentiment. C'est l'expérience de se sentir aimé et accueilli précisément dans notre pauvreté et dans notre misère. Et ainsi, transformé par l'amour de Dieu. Dieu ne compte pas seulement sur nos talents, mais aussi sur notre faiblesse rachetée. Notre faiblesse est rachetée, et lui s'appuie sur cela. Ce qui fait dire à saint Paul, par exemple, qu'il y a un plan aussi pour sa fragilité. En effet, il écrit à la communauté de Corinthe, « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. C'est pourquoi par trois fois j'ai prié le Seigneur d'écarter cela de moi, et il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Le Seigneur ne supprime pas toutes les faiblesses, mais il nous aide à marcher avec les faiblesses, en nous prenant lui-même par la main. Mais comment? Oui, il prend nos faiblesses par la main, nous avec les faiblesses, près de nous. Et c'est ça, la tendresse. L'expérience de la tendresse consiste à voir la puissance de Dieu traverser précisément ce qui nous rend plus fragiles. À condition toutefois de nous convertir du regard du malin, qui nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Tandis que l'Esprit Saint la met en lumière avec tendresse. La tendresse est le meilleur moyen de toucher ce qui est fragile en nous. Voyez comment les infirmières et les infirmiers touchent les plaies des malades avec tendresse, pour ne pas les blesser davantage. C'est ainsi que le Seigneur touche nos blessures avec la même tendresse. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, dans la prière personnelle avec Dieu, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité. Lui, c'est un menteur. Mais il s'arrange pour nous dire la vérité afin de me conduire au mensonge. Mais s'il le fait, le malin le fait et c'est pour nous condamner. Le Seigneur nous dit la vérité et nous tend la main pour nous sauver. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas. mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. Dieu pardonne toujours. Mettez cela dans la tête et dans le cœur. Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous fatiguons à demander le pardon. Lui, il pardonne toujours. Merci de votre attention et de votre écoute.